C'est une joie et en même temps une tension intérieure de pouvoir apporter ce que Dieu a pu mettre sur mon cœur. Chaque dimanche, les sujets souvent sont variés, différents, touchants, prenants. Et pour moi, j'avais le choix entre plusieurs possibilités. Mais j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ce matin? Quel est ton plan et quel est le désir de ton cœur afin que j'apporte ce que toi tu veux? Et c'est un sujet qui est un peu qui peut tendre ton cœur, nos vies, qui peut nous travailler dans le fond de notre cœur, c'est la notion de bénédiction et de malédiction, de bonheur et de malheur. C'est un sujet qui n'est pas facile. Pourquoi ce sujet? Je ne sais. Mais ce qui est important, c'est que ce matin, on puisse partager ensemble ce que c'est mis sur mon cœur, parce que c'est un sujet complexe, qui peut nous laisser parfois une position d'interrogation. Pourquoi? Et à la fois, il est simple, parfois trop simple, qui peut approcher parfois même de la caricature. Quand on regarde comment les gens abordent la notion de bonheur et de malheur, la notion de bénédiction et de malédiction, à la fois dans le caractère humain et dans le caractère divin, spirituel, c'est pas facile. Par où commencer? Le plus facile, je crois, que c'est de s'occuper de la bénédiction. Hein, c'est le sujet le plus facile, le bonheur. Le reste, on laisse de côté, on n'en parle pas, ou du moins, on en parle très peu, en catimini. Mais ce qui est important, c'est que souvent, on est attaché à la bénédiction associée au bonheur. Aujourd'hui, il y a des doctrines, je ne sais pas si Robert en a parlé dimanche dernier, la doctrine de la prospérité. Dieu bénit. Si tu fais ce que tu dois faire, tu es béni et tu vas devenir riche. Tu auras tout à ta disposition. Tu ne manqueras de rien. Et pourtant, Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Ah, interrogation. Si Dieu bénit, il ne doit plus avoir de pauvreté. Il ne doit plus avoir de misère. Tout roule. Tout va sur des roulettes. Malheureusement, le malheur, ce n'est pas le cas. Et même pour ceux qui ont été les plus touchés par la grâce de Dieu, peuvent rester dans une misère et dans une position de douleur qu'ils ne peuvent pas évacuer. Jérémie, quand on voit tout ce qu'il a pu subir et souffrir, et on parle des Jérémiades, vous savez, le mot Jérémiade, on a fait un peu une moquerie. Mais ce que dit Jérémie, ce n'est pas des choses en l'air, c'est des choses qu'il a vécues dans sa chair, dans les contacts qu'il avait avec les uns et les autres, avec les sacrificateurs, avec les princes de son pays. Et tout ce qu'il disait était contraire à ce que pensaient les autres. Et c'était la persécution, c'était la douleur, c'était la souffrance. Et pourtant, il était béni. Il était aimé de Dieu. Il était envoyé par Dieu pour annoncer au peuple d'Israël quel était son défaut. Quelle était cette tricherie, ces mensonges? Mais il ne voulait pas l'écouter. Hommes et femmes, quand Jérémie a parlé de ces biscuits qui étaient donnés à la reine du ciel, et quand ils répondent, depuis que nous avons arrêté de donner des libations à la reine du ciel, il ne nous arrive que des misères. Donc nous allons continuer à adorer la reine du ciel. Souffrance de ceux qui sont bénis. C'est incroyable. et on voit le méchant prospérer. Le méchant prospère. Il est rempli d'arrogance. Il a tout ce qu'il faut à sa disposition. Et il continue. Mais quand Dieu va-t-il agir ? Il faut le punir. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la punition n'est pas sur cette terre, elle est au ciel. Parce que le méchant, c'est la géhenne. Le juste, c'est le ciel. La malédiction, comme la bénédiction, sont à notre disposition. On va regarder dans Deutéronome, chapitre 11, quelques versets que Moïse a adressés au peuple d'Israël avant qu'il entre dans la terre promise. Le verset 26. Voici, vois, dit-il, vois, toi le peuple de Dieu, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au Dieu, n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie qui vous prescrit en ce jour pour aller vers d'autres dieux que vous ne connaissez point. Choix, aller vers le Dieu qu'on connaît ou vers les dieux qu'on ne connaît pas, vers les idoles. Je rappelle toujours que quelqu'un disait, il y a des années, quand c'était une dame qui accueillait dans sa maison des fois d'autres dames et qui partageait le témoignage de Jésus-Christ, elle disait, c'est pas la parole suffit. Mais le reste, si on a dans sa maison, son buffet, des statues, si on a des images, des icônes accrochées au mur, si on a finalement des chapelets ou autre chose et qu'on le prend chaque jour et qu'on dit « j'ai lu ma parole, mais… » C'est une désobéissance à l'Éternel. Une désobéissance. On dit connaître Dieu, mais on pratique des traditions qui ne sont pas de Dieu. Et la malédiction peut être à la porte. Si vous n'obéissez pas à mes commandements. La bénédiction associée au bonheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit. Il y a aussi notre formule de bénédiction qui est extraordinaire, c'est dans Nombre, chapitre 6. Une bénédiction qu'on doit s'adresser mutuellement les uns aux autres. Au chapitre 6, au verset, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'était Aaron et les prêtres, mais c'est nous aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs de l'Éternel, d'après l'Écriture. Et nous avons à bénir les uns et les autres. Nous bénir les uns et les autres, avoir une parole de grâce pour chacun et pour chacune. Nous avons besoin de vivre cette dimension aujourd'hui, dans un monde où c'est la méchanceté qui règne, où tout est occasion de critiquer, d'attaquer, de mordre, de ricaner, de se moquer d'un tel ou d'un tel. Je ne veux pas faire de politique. Mais nous voyons aujourd'hui comment des fois, pour un fait divers, je dirais, on en fait tout un scandale. On peut grossir les événements. mais ça va éclater la bulle, boum. Parce que finalement, pourquoi? Pourquoi se comporter ainsi? Pourquoi ne pas avoir de l'égard les uns pour les autres? Pouvoir s'aimer sans s'entretenir les uns les autres d'une façon correcte, sans utiliser des mots qui dépassent, j'espère, leur pensée. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à ce que nous puissions être ceux qui bénissent, et non pas ceux qui maudissent, comme a dit Jésus. Quand Jésus, quand il disait, il est écrit autrefois, « Bénissez vos amis, vos frères, haïssez vos ennemis. » Mais moi, je vous dis, dit-il, « Aimez vos ennemis, faites-leur du bien, apportez-leur de bonnes choses. » Mettez des charbons ardents même sur la tête, comme dit Paul, afin qu'ils se détournent de la voie qui était la leur. Un comportement qui amène la bénédiction, véritablement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que le bonheur. Ça ne veut pas dire que tout va marcher sur des roulettes. Mais on a béni, on a encouragé, on a exhorté, on a fortifié. Et quand Aaron prononce cette prière et ses fils sur le peuple d'Israël, Dieu dit « Je serai là, présent ». L'Éternel tourne sa face vers toi. Il ne se détourne pas de toi, il te regarde. Il te regarde et il te suit des yeux. Les yeux de l'Éternel, ce sont tous ceux qui sont sur la terre. Pas simplement ceux qui croient en lui. C'est ça qui est incroyable. Comment peut-il avoir les yeux sur les bons comme sur les méchants, sur ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste? Et quand tout à l'heure Robert a lu ce texte de la crucifixion avec ce brigand qui a dit « Nous méritons nos crimes. Pense à moi. » Un ange, comme il a lu ce texte dans Job, un ange a intercédé pour lui, pour cet homme, et il a été sauvé. Il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il a été sauvé instantanément, point. Le baptême ne sauve pas, comme on voit aujourd'hui dans certaines formes religieuses, où c'est le baptême qui est la source du salut. Non, c'est Christ la source du salut, et sa mort à la croix. Moi, j'ai été baptisé 8 jours après ma conversion, j'étais rapide. Pour certains, ça date, des fois, ça dure des mois et des années, parfois. Pourquoi? Pour qui? Mystère. Mais si on a donné sa vie à Christ, si on a abandonné notre ancienne vie, comme on l'a chanté tout à l'heure, Christ est notre rançon. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre qui était la nôtre autrefois. Il nous a donné une expérience, une vie. La bénédiction est là. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des misères, des souffrances. Je me rappelle toujours d'un homme âgé qui était monté dans son cerisier pour cueillir quelques cerises. Un homme qui dit « Mais Dieu, ils avaient Dieu !» Puis il savait que c'était dangereux. Une branche de cerisier, ce n'est pas une branche de chêne. Il est monté et boum, la branche est cassée. Il s'est effondré quelques mètres plus bas quand même. Et puis il en est resté paralysé. Paraplégique. Dans un fauteuil roulant. Malgré cela, il faisait confiance à Dieu. Il n'a pas accusé Dieu de ne pas lui avoir prévenu, de l'avoir gardé, protégé, d'avoir mis des anges sous lui pour pouvoir qu'il tombe tout doucement sur le sol comme en apesanteur. Non. Il a fait une erreur. Il y a un prix à payer. Mais cet homme, lorsqu'on le visitait, quand les gens le visitaient, quand il était à l'hôpital, qui venait avec une mine longue, vous savez, de compassion, mais « Oh là là, mon pauvre ami, qu'est-ce qui t'arrive ?» etc., etc. Et puis, mais quand ils repartaient, ils avaient le sourire. Parce que cet homme les avait encouragés, les avait exhortés. Malgré son épreuve, il les encourageait. Il ne restait pas fixé sur son épreuve à se lamenter. Il acceptait l'état dans lequel il était pour pouvoir honorer Dieu, à tous égards. Vous avez vu cet homme, cet Australien qui a que des tout petits bras et des petites jambes, toutes petites, minuscules, qui dépendent de tout le monde. Et son témoignage, hein, On pourrait dire, pourquoi m'a Dieu créé ainsi? Pourquoi Dieu m'a créé ainsi? Je dépends de tous, je ne peux rien faire de moi-même. Mais il a toujours sa tête, et son intelligence, et ses capacités, et son témoignage. Il donne un témoignage puissant. Oh, le malheur l'a atteint, oui. C'est une misère pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est cet homme qui n'a pas de bras et de jambes, mais qui vit encore? Et lui-même est plein de compassion pour ceux qui sont valides. Parce que les valides ont besoin de compassion. Autant que ceux qui sont dépourvus au niveau de membres. Dieu exerce, à travers sa bénédiction, une protection sur nos vies. C'est une protection. Et parfois, même pour dire, une consécration. Nous sommes destinés à le servir, à l'honorer, malgré tout et contre tout. L'Église, c'est comme le camp d'Israël, nous ne l'oublions pas, avec tout bien ordonné, tout bien dirigé, centré sur le tabernacle qui était placé au centre. Tous les tribus étaient bien rangées tout autour. Ça ne devait pas être facile quand il y avait plus de 3 millions de personnes dans le désert. Mais il y avait de l'ordre. Il y avait de l'ordre. Et cette bénédiction s'étendait sur eux avec la manne qu'ils recevaient. Ils n'avaient rien à manger. Et cette manne descendait du ciel. Quelques-uns ont été mécontents, ils en ont subi les conséquences. Qu'est-ce que c'est que cette manne? Nous voulons des cailles. Et ils en ont eu, gavés, jusqu'à en mourir. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons toujours en paix, en paix, en paix, en paix, malgré tout et contre tout. Il nous accorde sa grâce, il fait luire sur lui sa face. C'est vrai que lorsque nous parlons de bénédiction, il y a beaucoup de possibilités. Pense à ceux qui sont seuls, isolés. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'isolement est presque normal. Combien de gens vivent seuls, sont dans un immeuble, un bâtiment, il y a sur le palier, il y a 3 ou 4 portes, 3 ou 4 appartements, mais souvent ils ne se connaissent même pas, les uns les autres. Isolement, il y a des personnes qui décèdent et on découvre que 3 mois plus tard qu'elles sont mortes. Personne ne s'est intéressé à elles. Un isolement, une détresse. Et dans l'Église, c'est possible aussi. Pensez à ceux qui peuvent être isolés au milieu de nous, qui ne le disent pas, qui ne le prononcent pas, qui ne le proclament pas. Mais ils ont besoin de la bénédiction. La bénédiction qu'on peut leur accorder par un simple regard, un simple geste, une amitié qu'on peut nouer, des relations qu'on peut nouer. Dieu veut nous donner cela, nous accorder sa présence en nous pour qu'elle soit transmise dehors. La bénédiction, on peut dire qu'elle est inconditionnelle, mais à la fois elle est conditionnelle. Parce que quand on a lu dans le livre de Deutéronome, obéissez à la parole de Dieu, obéissez au commandement de Dieu, ne détournez pas de lui. On va lire un passage, justement, dans Ésaïe, chapitre 54, s'il vous plaît. Les versets 7 et 8. C'est édifiant pour nous, n'oublions pas, de la part de Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, la colère de Dieu, je t'avais un moment dérobé ma face. mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Un amour éternel. Dis ton Rédempteur, l'Éternel. Je relis. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Un accès de colère. Un instant de colère. Un instant qui passe, qui ne dure pas. Tandis que l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. Il est sans cesse là présent. Il nous fortifie, il nous encourage, il nous donne de pouvoir aller plus loin, malgré tout et contre tout. Il y a un psaume qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Des livres, toujours, toujours, toujours. Lent à la colère, riche en bonté. Un amour éternel, une colère ponctuelle, mais qui disparaît aussitôt. Il n'y a plus de traces, plus de traces de la colère. Pas de remous intérieur, pas de rancune, pas d'amertume, pas de... Non. Dieu n'exerce pas une amertume à notre égard. Il nous aime les uns et les autres ici, nous tous ici. Je ne vous connais pas tous, mais Dieu vous connaît tous. C'est ça la différence. C'est ce qui est important, que vous êtes aimés de lui à tous égards. Dieu nous garde notre départ et notre arrivée. Il dit, le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Il est avec nous, il veille sur nous, quoi qu'on dise. Souvent, on est aveugle, on ne se rend même pas compte que Dieu nous a gardés. Hein ? On ne se rend même pas compte que dans certaines situations que nous avons vécues, il a mis sa main. On dit, oh, c'est la chance. Bon, Dieu, qui a mis sa main et qui a empêché qu'un accident se produise. L'autre jour, on était à Lussanger, justement, et un des frères, Christophe, qui venait de l'Orient et qui voulait venir rentrer à Lussanger avec sa petite fille. Puis, à un moment donné, il était dans la voiture. Et puis, il allait doubler notre voiture. Quand il a senti comme une force qui s'exerçait sur son volant pour le faire revenir sur la droite. Et à ce moment-là, à sa gauche, une voiture a filé. Boum ! Qui doublait, ne le voyait pas. Mais il y a eu une force qui s'est exercée sur le volant à droite pour qu'il reste derrière la voiture qu'il suivait. Elle a dit, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas moi qui ai tourné le volant. Il y a eu une main qui s'est mise sur le volant et qui a incliné le volant vers la droite. On aurait pu dire, bah oui, j'ai un bon réflexe. Mais non, ce n'est pas son réflexe. Et puis, il n'avait même pas vu la voiture. Dieu l'a gardé de la mort. Il a témoigné. Et c'est important aussi que nous témoignions de la grâce de Dieu qui se manifeste et sa bénédiction dans nos vies lorsque de telles situations se présentent. Combien de fois avons-nous évité des catastrophes ? Peut-être que l'un qui pourrait en raconter. Mais le témoignage, c'est important. Et le témoignage qu'on peut apporter les uns et les autres de ce que Dieu peut faire. Il veille sur notre départ et sur notre arrivée. Amen. Il nous garde. Mais une chose importante quand même, c'est que nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Dieu parfois, on nous parle d'une façon tout à fait bizarre. Hier soir, je regardais un petit livre sur la réalité de la présence de Dieu. Puis je lisais un passage, j'ouvre la ouvre. Puis C'était le témoignage, un homme, donc un ministère dans une église, et puis il va prier pour une personne. Il va prier pour une personne, et puis il lui dit qu'il avait des problèmes d'estomac importants. Tu es en désobéissance à la parole de Dieu. Oui. Oui, désobéissance. Et tant que tu n'auras pas, en somme, rétabli ces choses, tes ulcères d'estomac dureront. Oui. Il avait vu des médecins, il avait des ulcères, plusieurs ulcères à l'estomac, des amertumes, des aigreurs. Il souffrait terriblement. Et les médecins ne savaient pas comment le soigner. Il aurait dû être opéré, on lui enlevait l'estomac, carrément, une bonne partie. Alors le prédicateur qui priait pour s'imposer les mains, cet homme, et dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu ne donnes pas la dîme à l'Église. Tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu veux l'honorer, mais tu ne fais pas don de ce que tu as à lui. Et c'est pour ça que ton estomac est malade. Bon. Alors, que décides-tu? Ben, je donne, je fais, j'obéis. Vous voyez, non? Et puis il a prié. Et puis cet homme, il se sentait bien. Il n'avait plus d'appétit. Il ne mangeait quasiment rien à cause de son estomac. Et puis là, il se voit un bon bistec. Et il mange. Et puis il va voir le médecin. Il va sur la radio. Plus d'ulcères. Tout avait disparu instantanément. Et cette douleur qui était là, cette souffrance, cette désobéissance qui était la sienne, il avait reconnu et il avait obéi. Cela a changé sa vie totalement. Mais moi, je vais vous dire, personnellement, ça m'a touché parce que je suis un peu négligent actuellement au niveau de la dîme. Oui, ça arrive. Je ne le ferai pas. Je sais que ce n'est pas le seul ici. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions donner comme Dieu l'entend et fasse que, à travers cette bénédiction que nous avons à donner aussi à l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit en retour et nous encourage à aller plus loin, beaucoup plus loin que l'on pense. Malédiction, bénédiction, malheur, bonheur. On peut voir le malheur là où il n'est pas et le bonheur là où il n'est pas non plus. Il y a une inversion. On ne se rend pas compte que le malheur qu'il est là, c'est que nous sommes entrés dans une façon de vivre qui est totalement opposée à Dieu. Et que nous allons pied à pied vers l'enfer. Une vision, il y a des années, c'était un train. Un train. Puis les gens qui, comme ici, sortaient du train, et puis c'est toute une file de voyageurs. Seulement, quand j'ai regardé, ce qui se passait, c'est que les gens, au lieu d'aller de l'avant, ils allaient en arrière. Ils reculaient, ils rentraient à reculons dans le train. Le train partait à reculons et tombait dans un précipice profond. Ils pensaient avancer, voyager, mais ils étaient à reculons, ils allaient dans le mauvais sens, sans le savoir. Ils allaient vers la perdition. Et ça m'a fait réfléchir aussi à ces aspects-là. Comme quoi c'est facile de penser qu'on avance, qu'on progresse, alors qu'on est en train de régresser. En train de régresser. Et qu'on va dans la mauvaise direction, croyant aller dans la bonne. Nous avons à veiller sur notre façon de vivre notre foi et notre engagement spirituel. Parce qu'on peut être dans l'erreur, de bonne foi. Croire qu'on annonce les choses comme il faut, alors qu'on est en train d'accuser, de condamner et de maltraiter ceux qui sont en face de nous. Au nom de Dieu. Pensons à ce pharisien qui est en train de prier, « Regarde-moi, Seigneur. Je fais tout ce qu'il faut faire, etc., etc. » Et puis, regarde cet homme à côté, ce publicain. Et le publicain qui s'est frappé la poitrine, « Je ne suis pas digne d'être aimé de toi, de pouvoir marcher avec toi. » Qui était dans la vérité ? Le publicain, et non pas le pharisien. Veillons, frères et sœurs, sur notre façon de concevoir la notion de malheur et de bonheur. Quand je regarde dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, vous connaissez le chapitre 5 ? Chapitre 5, on parle des béatitudes. Je ne vais pas toutes les lire, mais je vais en lire une, simplement. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés. Je me rappelle toujours, c'était à Noël il y a des années, je me rappelle Marie-Thérèse, on chantait avec l'Église à cette époque-là, c'était dans les années 72, 73, c'est vieux. Et on chantait, et puis voilà que quelqu'un est venu, je crois, et a donné une gifle à la femme du pasteur. Oh là 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 là! Quel scandale! Elle était offusquée, mais on a pensé, je crois qu'on l'a dit quand même, mais au fait, on chantait Christ, la naissance de Jésus-Christ, et on vient de donner une gifle. C'est un honneur. Parce que tu annonces Christ, et cet homme-là, lui, il refuse de reconnaître Christ. Il est venu te frapper. Qu'on regarde, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est difficile à admettre. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est difficile à admettre qu'on peut être heureux dans ces conditions-là. Mais le bonheur n'a pas la même dimension. C'est un bonheur qui est d'ordre spirituel et non pas d'ordre matériel. Le matériel, souvent, nous attire de plus en plus. Alors que c'est les béatitudes, c'est être béat, entre guillemets. Quelqu'un qui est béat, c'est un naïf, là. Hein. C'est celui qui se fait avoir de tous les côtés. Mais non! Les béatitudes, c'est heureux dans la situation dans laquelle on est, malgré tout et contre tout. Paul a dit, j'ai appris à être heureux dans toutes circonstances, dans l'abondance comme dans la disette, dans la persécution comme dans la bénédiction. Heureux. Venez vous lire dans Deutéronome, chapitre 28, justement. C'est quelques versets pour conclure. On pourrait dire tant de choses et tant de choses sur la bénédiction, la malédiction, hein, sur le malheur et le bonheur. Mais je crois que l'essentiel, c'est que nous soyons dans la position de celui qui aime Dieu et qui veut le servir et l'honorer. Deutéronome 28. C'est le chapitre de la bénédiction et de la malédiction. Oui, aïe, aïe. On ne va pas le lire d'entier, il y a 78 versets, je crois. 68 versets. Il y en a 14 pour la bénédiction, il y en a 54 pour la malédiction. Oui, aïe, aïe. Il n'y a pas beaucoup pour la bénédiction, hein ? Que 14 ! Mais il aurait dû avoir beaucoup plus. Mais les 54, là, c'est des avertissements et des avertissements et des avertissements et des avertissements. Et je voudrais simplement lire le verset 13 et 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Oh, c'est bon ça. Hein. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Oh. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous ai donnés aujourd'hui, vous allez après pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ce serait la tête et non la queue. C'est un beau projet. Mais dans la réalité, mondaine, ce n'est pas toujours le cas. Mais dans la réalité spirituelle, c'est le cas. Parce que nous serons les uns et les autres ceux qui glorifient et honorent Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée, qui aiment Dieu et qui veulent le servir et l'honorer. Qu'importe le reste, même si je suis démuni financièrement, je loue Dieu. J'aime Dieu et je veux qu'il continue son œuvre en moi et me garde toute ma vie. Si je suis riche, je vais peut-être donner 90% de ma dîme et même plus de mon salaire pour la dîme. Il y avait un Américain, je crois que c'était M. Gibbs, identifié, je crois. Il avait commencé à donner 10%, puis après 20%, puis après tout. Il arrive à 80%. Il lui restait encore beaucoup. Hein, malgré tout, c'est un milliardaire. Mais il donnait 90%. Le pourcentage, ce n'est pas tout à fait équitable. Quand quelqu'un gagne 1 000 euros et qu'il donne 10%, ça fait 100 euros. Mais quelqu'un qui gagne 100 000 euros et qui donne par mois, et qui donne 10 000 euros le mois, il lui reste encore 90 000 quand même. Hein. Il peut aller loin. Hein. Ce n'est pas le pourcentage qui compte. C'est avec quel cœur on le donne. Comme cette vieille dame qui était, cette dame qui était, Jésus voyait, était près du tronc, qui a donné son nécessaire. Ceux qui ont beaucoup, ils ne donnent pas de leur nécessaire. Hein. Non. Non. Ils donnent. Ils peuvent donner plus. On veut souvent, quand on parle de la dîme, on veut en faire une règle. C'est 10%. Ben, toujours qu'il y avait Jean-Marie Ribet qui a écrit un livre là-dessus. Sur la dîme, non, la dîme, c'est pas 10%. Ah bon ? Mais c'est plus. C'est ce que vous pouvez donner selon votre cœur. Et non pas ce qui est la façon de vous rationner. Vous rationnez le Seigneur à travers l'Église. Oui, Dieu veut nous donner de vivre heureux pour lui, pour l'honorer et le glorifier. Alors, frères et sœurs, ne vous attachez pas à vos misères. Parce que les misères attachées à notre vie, c'est comme un cancer. Elles se développent de plus en plus, elles envahissent tout, et où est la guérison possible? Mais si vous dites, comme tout à l'heure, on chantait la croix devant le monde, hein, derrière, avançons. Gagnons du terrain et proclamons avec joie que nous sommes heureux de le servir et de le glorifier. Amen. Nous prions. Merci Seigneur pour ce matin. Je demande de bénir mes frères et sœurs à tous égards. Que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur. Que tu les conduises dans ta paix, dans ta joie, dans ta force. Que tu leur donnes à chacun et à chacune de vivre des choses, des richesses de ta part. Les contacts, les relations, les partages, le désir profond d'aider, d'entourer, d'exhorter, le désir profond d'être quelqu'un qui aime de tout son cœur et qui veut apporter à l'autre au-delà de ce que cette personne a pu recevoir. Seigneur, merci de nous conduire dans l'Église à vivre cette dimension ces dimensions de partage, d'amour, et d'oublier, de laisser de côté toutes nos souffrances et nos misères et nos incapacités pour aller plus loin avec toi et pour glorifier ton nom à tous égards, pour faire que toi, tu sois connu et entendu malgré notre vie, peut-être qui peut être misérable, entre guillemets, mais dans laquelle tu nous as placés et tu nous as donné richement de ta présence. Merci Seigneur, et que ton nom soit loué ce matin encore, que ton nom soit loué, et que nous puissions repartir de ce lieu encouragé, fortifié et renouvelé pour aller sur les chemins que tu mets devant nous, Seigneur. Amen.